Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo. Vous le savez, tous les lundis, on commence la semaine par un petit débrief de l'actu de ces derniers jours. Bienvenue donc avec au sommaire pour ce nouveau Tech Hebdo en ce 1er mai. Eh bien, on va parler d'Elon Musk qui est à la tête de Twitter depuis 6 mois. Quelques petits rebondissements, on évoque tout ça avec Margot Vuillet dans quelques instants. Et puis, on découvrira un nouveau masque de VR. Alors, dédié aux pros, mais très intéressant, il s'agit de Pico et son G3. Et on s'intéressera, puisque ça y est, le printemps est là, on s'intéressera à des applis justement pour préparer l'arrivée du printemps. Et ce sera avec Eva Serraiol qui sera sur notre plateau. Voilà le sommaire plutôt sympa de ce Tech Hebdo. Merci d'être avec nous, comme chaque lundi. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. En ce 1er mai, on est très heureux d'être avec vous, bien évidemment, pour toute l'actualité tech. Vous pouvez retrouver ce Tech Hebdo, bien sûr, sur la page YouTube, sur la chaîne Tech & Co, bien évidemment, ce lundi soir, et puis, bien sûr, en replay, sur l'appli RMC BFM Play. Et vous le savez, Tech Hebdo, pour débuter, c'est toujours l'actu de la semaine. On se connecte tout de suite à la rédaction de Tech & Co, avec Margot Vuillet, qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Bonjour Margot.
Bonjour François.
Ravi de te retrouver Margot. De même. Donc, de la rédaction de Tech & Co avec évidemment pas mal d'actu et on va commencer par ce chiffre. 40% des femmes qui jouent aux jeux vidéo ont déjà été victimes d'une forme de sexisme.
Margot. Oui, c'est une étude IFOP qui est parue la semaine dernière sur le sexisme dans le monde du gaming. Et donc ce chiffre, 40% des femmes ont ainsi déjà été victimes d'une forme de sexisme, sachant que 6 femmes sur 10 jouent aux jeux vidéo. Donc c'est une passion qui se répand notamment chez les femmes. Et puis c'est un sujet qui reste un petit peu tabou quand même, même si on voit que la parole se libère quand même, notamment dans le milieu du streaming. Par exemple, la streameuse Magla sur Twitch qui en parle beaucoup. Sur les réseaux sociaux,
notamment sur Twitch, je crois.
Oui, exactement.
Après, c'est vrai que tout dépend des types de jeux aussi, je crois.
Oui, ça concerne beaucoup, notamment les jeux de combat. 66% des femmes joueuses qui sont spécialisées dans les jeux de combat contre, alors on ne va pas dire seulement, parce que ça reste un chiffre très haut, mais 26% des joueuses qui jouent à des jeux de simulation ou de réflexion. Donc il y a un ratio qui...
Tiens, c'est étonnant.
Oui.
Et puis des techniques aussi pour éviter ces attaques.
Oui. Alors première technique, ce qu'elles appellent un petit peu des stratégies d'évitement, ne pas dévoiler son genre quand on joue à des jeux en ligne ou avec d'autres joueurs.
Après c'est difficile parce que de plus en plus de jeux on dialogue aussi donc.
Oui c'est ça. Femme, et puis rendre un peu la chose un petit peu vivante. Ou encore ne pas jouer en ligne ou ne pas prendre part aux discussions vocales.
Ouais.
C'est se mettre des limites alors on peut prendre du plaisir et juste mais parce qu'on est une femme.
On va massacrer le plaisir en fait, de jouer comme ça en ligne, c'est vraiment dommage.
Ouais. Et puis du côté aussi des joueurs masculins, 1 joueur sur 3 qui se dit féministe dans cette étude. Un autre chiffre, 67% des hommes qui se disent plutôt gamers adhèrent à au moins un stéréotype sexiste. Donc des chiffres qui restent assez conséquents et je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour que
le
milieu du gaming...
Toutes ces tendances évoluent positivement, on va dire. Alors, un autre chiffre maintenant, c'est 6, et c'est plus précisément 6 mois, puisque ça y est, ça fait 6 mois qu'Elon Musk est à la tête de Twitter. C'était, rappelez-vous, le 27 octobre 2022, on s'en souvient encore. Et de l'eau a coulé sous les ponts.
Il s'est passé beaucoup de choses en 6 mois.
Il s'est passé quand même pas mal de choses,
oui.
Margot, tu
voulais revenir. Oui, je pense qu'Elon Musk fait parler de lui plusieurs fois par jour.
Certes, c'est sans doute voulu en plus, et là, sa stratégie tient la route.
Oui, donc il y a eu Twitter Blue, déjà.
Oui.
Alors, on a vu il y a quelques jours les anciens badges de certification qui demandaient une authentification ont disparu pour laisser place à l'abonnement payant. Twitter Blue, alors je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais c'est apparu 2 semaines après le rachat d'Elon Musk pour être retiré parce que c'était un fiasco total.
Oui, ça avait été mal lancé.
Oui, c'est ça. Il y a eu des usurpations d'identité assez conséquentes. Et donc, c'est revenu le 22 novembre et en France, c'est apparu le 3 février. Peut-être pour ceux qui nous regardent, Twitter Blue, donc, qui sert à modifier des tweets, à faire des tweets de plus de 4000 signes, avoir moins de publicité aussi dans son fil Twitter. Sauf que tout ça, ça a amené une certaine pagaille dans les badges, donc notamment au niveau de ses anciennes certifications. Il y a aussi des nouveaux badges, les badges gris, les badges or. Autre changement aussi sur l'interface Twitter, il y a le fil pour vous qui est apparu, on se souvient, début janvier. Le tout est basé sur des décisions des algorithmes. Et enfin, Elon Musk qui a mis le paquet sur la modération, mais peut-être pas dans le bon sens. Oui. 70 000 comptes qui avaient été bannis pour des informations sont revenus. Et puis, il a licencié aussi une grande partie des équipes de modération. Donc, oui.
Parce que c'est là aussi des points, on va dire, importants hein, de ce rachat de Twitter, c'est qu'il a viré plus de la moitié en fait, des effectifs.
Hein, oui, exactement, et dont les équipes de modération.
Entre autres, voilà, des développeurs, enfin, etc. On se souvient d'histoires incroyables. Hein. Ouais. Des gens venaient travailler le week-end et puis ils étaient jugés pendant le week-end. S'ils faisaient l'affaire, ils étaient conservés.
Oui, il y en a qui ont même été licenciés par un tweet.
Oui, c'est ça, incroyable.
Donc tout cela engendrait des pertes, ouais. Les annonceurs.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a, on va dire, la sanction financière aussi derrière.
Bah oui, et puis ça retombe sur Musk. Finalement, oui. C'est peut-être lui qui est perdant dans l'histoire. Et puis Twitter Blue, eh ben, c'est seulement 0,25% des utilisateurs qui se sont abonnés. Donc, il veut miser sur un système d'abonnement, on ne sait pas si...
Oui, pour l'instant, ça n'a pas l'air de rameuter les foules. Hein.
Non. Ouais, voilà.
Dans l'actu aussi, Margot, tu voulais nous parler de ce... alors voilà, là, on part dans le vintage, dans le rétro gaming. Pour tous ceux qui ont connu la Nintendo NES, eh bien, cette Nintendo NES va pouvoir ressortir de la cave et du carton parce que, grâce à une innovation française, elle va redevenir au goût du jour.
Oui, on se souvient de la Nintendo NES qui est sortie il y a 40 ans. Déjà. Ouais. Et ce jeu, eh bien, il s'appelle Super Tilt Bro. Et comme tu le dis, en effet, c'est un Français qui s'appelle Sylvain Gadra et un éditeur qui est français lui aussi qui s'appelle Brook Studio. Et la particularité, c'est qu'on pourra jouer en ligne à la NES puisqu'en fait, une puce Wi-Fi est intégrée directement dans la cartouche. Et donc, ça va être un jeu de combat où s'affrontent des personnages de Mario à Zelda en passant par Animal Crossing. Pas de personnage de Nintendo au menu, mais donc il sera possible de jouer en ligne. Et en fait, techniquement, la cartouche contient une carte électronique qui intègre une puce et une antenne Wi-Fi.
D'accord, qui permet justement d'ouvrir la porte au jeu en réseau.
Oui, c'est ça, hein. C'est ça, exactement. Et donc, il y aura différents modes de jeu. On pourra jouer en mode compétition, en mode occasionnel, même des salles privées. Et puis, ça marche très, très bien, puisque... le jeu en fait est financé grâce à une campagne de financement participatif. Au bout de 3 jours, il y a déjà 40 000 euros qui ont été levés. Donc, je pense que
ça, c'est tous les anciens geeks, fans de jeux vidéo, qui ont investi là-dessus.
Oui, un petit peu l'histoire du début. Ouais. Et donc, des livraisons, des versions physiques est annoncée pour avril 2024. Qu'il faudra patienter encore un peu, mais on peut déjà jouer en ligne, en tout cas. À ce jeu-là.
Voilà, Margot, je ne sais pas si tu as déjà testé cette console.
Pas encore.
Parce que tu es beaucoup trop jeune, bien évidemment, mais pour ce qui me concerne, c'était mes premiers émois de jeux vidéo et c'était incroyable, quoi. Les Zelda, les Super Mario là-dessus, c'était fou. Et le fait de se dire que ça revient aujourd'hui, c'est assez amusant. Et avec la fonctionnalité donc, de jeu en réseau, ça peut être plutôt cool. Et dans l'actu aussi, on va terminer par Netflix. Margot, alors on en parle depuis un moment, c'est un beau serpent de mer cette histoire. Hein. Voilà que la fin du partage de comptes revient sur le tapis. Et pour l'instant, ce n'est pas forcément gagnant pour Netflix.
Non, c'est même perdant.
Perdant, d'accord.
Puisqu'en fait, donc, la fonctionnalité n'est pas encore disponible en France. Mais là, c'est en Espagne, 1 million d'utilisateurs qui ont fui très clairement la plateforme. Puisque donc, c'est disponible en Espagne depuis début février, où Netflix en fait, avait instauré des frais à hauteur de 5,99€ par mois pour les utilisateurs qui souhaitent partager leurs identifiants à un autre foyer. Donc si on veut partager son compte, oui.
Avant c'était gratuit, maintenant on te détecte et on te dit qu'il faut que tu rajoutes 6€. Quoi.
Voilà, donc ça n'a absolument pas plu aux utilisateurs. 1 million, comme on le disait. Et donc cela fonctionne en fait avec un système de détection des comptes partagés avec... une surveillance des adresses IP, des identifiants de compte, l'activité des clients. Résultat, les résiliations d'abonnement pour les 3 premiers mois de l'année sont 3 fois plus importants sur les 3 mois qui ont fini l'année 2022.
Ah oui, c'est pas bon donc.
C'est conséquent.
Ouais, c'est un petit signal d'alarme hein, quand même hein, pour Netflix. Alors ils sont malins parce qu'ils font pas ça d'une manière mondiale d'un coup. Ils testent ça sur des pays pour voir comment réagissent les pays. Je crois que ça a été lancé au Portugal aussi.
Oui, Portugal, Canada.
Voilà.
On mais va ça apparaîtrait freiné, puisqu'en tout cas, ça devrait arriver en France d'ici juin. Donc, on verra ce que ça donne.
On verra bien si on s'abonne, on continue notre abonnement ou si on se désabonne suite à cette petite option qui va vite arriver. Merci beaucoup, Margot. Margot Vuillet, donc, de la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, bien sûr, on accueille notre première invitée dans cette émission. Tiens, ici, on parlait un peu de VR, sujet qu'on aime beaucoup, avec Alizé Amrani qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Alizé.
Bonjour.
Responsable marketing Europe chez Pico Business. Et oui, Pico, pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité de la VR, il y a Meta, bien sûr, il y a HTC avec son Vive, il y a d'autres acteurs qui prépareraient peut-être des masques, dont Apple, mais il y a aussi Pico. Pico qui appartient au chinois ByteDance. Et vous avez dévoilé, Alizé, le Pico G3, alors qu'il est un masque, on va dire, qui est plutôt réservé au business. C'est toujours intéressant de voir un petit peu quels sont les usages de cette réalité virtuelle dans le monde du business. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce masque, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, le nouveau Pico G3 que nous avons lancé il y a 2 semaines à l'événement Laval Virtual en France, c'est un produit qui est un peu le produit porte d'entrée pour toutes les applications professionnelles et pour donner l'accès à la VR à des applications, enfin, pour les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle, mais également dans le domaine de la culture. D'accord. Donc,
énormément d'applications.
Oui.
Est-ce que les entreprises sont intéressées aujourd'hui d'utiliser la VR, par exemple, pour la formation ? Vous voyez que ça commence à décoller ?
Oui, ça commence à décoller pour la simple et bonne raison que ça diminue les coûts. Ça permet aux entreprises de former énormément de personnes en court laps de temps. Et ça, c'est très intéressant. On travaille notamment avec nos intégrateurs, hein, c'est ceux qui développent les applications sur nos casques. Donc sur le Pico G3, nous avons Uptail qui fait de la formation, qui offre des modules de formation aux grands noms de l'industrie française comme Valourec ou Fnac Darty, par exemple. Oui. Ça va être des formations en usine pour réduire les risques. Donc en plus, voilà, les personnes peuvent s'entraîner à gérer, à faire des tâches sur une grue ou sur une machine un peu dangereuse.
Là, on est sur la VR, on n'est pas sur de l'AR.
Oui, on est sur de la VR tout à fait. C'est des mondes, c'est des vidéos en 360 d'accord. qui sont recréées et en fait la personne est complètement immergée dans un monde dans lequel elle doit quand même s'entraîner et faire les tâches correctement.
Voilà, on voit ce masque hein, évidemment avec la batterie à l'arrière, etc. Il a l'air très confortable au niveau technologique. C'est pas le top du top chez vous, hein, puisqu'il y a le G4, c'est ça ?
Alors, nous avons le Pico 4 Enterprise. Enterprise
c'est oui. on va dire le top du top.
C'est ça.
Celui-ci, comment se situe-t-il dans la gamme ?
Alors, c'est une très bonne question. Le G3, en fait, c'est l'entrée de gamme. Il est à 399 €. C'est un prix qu'on a choisi pour justement faciliter l'intégration de la VR en Europe, en fait, pour donner vraiment l'accès à tout le monde. Ensuite, nous avons le Pico Neo 3 Pro. Et le top du top que nous avons dans la gamme, c'est le Pico 4 Enterprise, que nous avons lancé également il n'y a pas très longtemps, qui est équipé du suivi oculaire, suivi des mouvements du visage, mais aussi maintenant, on n'a plus besoin des contrôleurs, on peut participer.
C'est-à-dire qu'avec les capteurs, en fait, ils détectent les mains.
Vos mouvements du visage, donc vos émotions et le suivi oculaire pour voir où est-ce que vous regardez également. Une caméra frontale qui permet de faire des applications de réalité mixte. Et donc, si vous voulez le tester, il y a Hangar Y qui a déployé 100 casques Pico 4 Enterprise avec Realcast, notre intégrateur. Pour l'ouverture de Hangar. En région parisienne, à Meudon, tout à fait.
Tout à fait, un très, très bel endroit d'ailleurs en plus. Donc ce Pico 4 Enterprise qui est vraiment, on va dire, le concurrent direct du Quest Pro hein, de Meta qui est sorti il y a quelques temps de cela. Il coûte combien le Pico 4 Enterprise ?
Il est à 799 €.
Voilà, donc évidemment aussi moins cher que le Quest Pro, même si celui-ci accuse une baisse de prix. On voit que de potentiels concurrents pourraient arriver sur ce marché. On cite notamment Apple qui pourrait débouler là dans quelques mois avec un nouveau masque. C'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle à votre avis, ça ?
Alors, on considère que c'est finalement plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la VR, la XR de manière générale se démocratise et en fait c'est vraiment dans notre stratégie chez nous, chez Pico, de pouvoir donner accès à cette technologie qui est absolument fabuleuse à un plus grand nombre de personnes possible. Tout à l'heure, quand on parlait du G3 et qu'on parlait des exemples, il y a des exemples très marquants, par exemple dans le domaine de la santé. Mmh. On travaille avec des partenaires comme Lumine ou HypnoVR qui aident les patients en hôpital pour gérer leur stress et leur anxiété grâce à la VR, mais aussi dans les EHPAD. Il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est l'histoire d'une résidente en EHPAD qui, pour ses 100 ans, a voulu sauter en parachute. Ça a été fait, ça a été possible grâce à la VR.
Oui, voilà. Elle est restée tranquillement dans sa résidence, elle a chaussé le masque.
Exactement.
Elle a vécu, ça va, elle a bien géré la situation.
Elle va bien, elle va très bien. Donc voilà, c'est pour nous qu'il y ait de la concurrence qui arrive sur le marché, c'est preuve qu'il y a de l'intérêt.
Ça doit être drôle de vivre comme ça un saut en parachute avec un masque VR.
C'est possible.
Ça doit être impressionnant. Et bien voilà, donc l'actu pour Pico, c'est ce Pico G3, donc pour les entreprises. Mais sachez qu'il y a toute une gamme qui existe aussi pour le grand public. Merci beaucoup Aliza Amrani.
Merci.
Responsable donc business chez Pico Europe. Et vous restez avec nous. On retrouve tout de suite Eva Serraiol pour les applis, sa petite sélection d'applis dans ce Tech Hebdo. À tout de suite. Et en ce 1er mai, que diriez-vous pour terminer ce Tech Hebdo ? Une petite chronique avec une sélection d'applis spéciale printemps. Ça serait pas mal quand même, non ? Eva Serraiol, bonjour.
Bonjour François.
C'est une très bonne idée, ma foi. Hein ? Petite sélection que vous avez faite pour nous, que tu as fait pour nous. Qu'est-ce que tu nous proposes donc ?
Alors, des petites applis pour le printemps, pour rendre le printemps un petit peu plus tech et un petit peu plus simple.
Oui.
Vous allez voir.
D'accord.
On commence avec Picture10. Picture10, c'est une appli qui permet de reconnaître les plantes grâce à l'intelligence artificielle. Donc déjà, c'est pratique. On va se balader au parc, on va se balader en forêt. On voit une fleur ou un arbre qui nous plaît. On veut en savoir plus. On prend la photo et on a toutes les caractéristiques de la plante.
C'est un peu un Shazam végétal.
Quoi. Exactement. Mais ça ne fait pas que ça.
Ah.
Et ça, pour tous ceux qui n'ont pas la main verte comme moi, mais qui aiment quand même bien avoir des plantes vertes dans leur appartement, c'est hyper pratique. Donc en fait, on peut prendre en photo nos plantes et les ajouter à mon jardin, ça s'appelle. Et donc, d'accord, on a une vue d'ensemble de nos plantes. On peut dire la dernière fois où on les a arrosées, donc ça nous fait des petits rappels. Et surtout, quand on les prend en photo, ça nous donne l'état de santé de la plante. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de grosses surprises, elles étaient toutes malades. Hein. Les feuilles jaunes et desséchées, apparemment, c'est
une c'est un standard chez Eva, d'accord.
Voilà. Ouais. Et donc, elles nous disent si elles sont en mauvaise santé, comment faire pour les aider en fonction de ce qu'elles ont, s'il y a des petits insectes, comment les traiter, etc. Donc,
et ça marche vraiment ? Il y a beaucoup d'erreurs ou...
Alors, je vous le dirai d'ici quelques mois. Si mes plantes continuent de mourir, c'est que ça ne marche pas. Pour le moment, ça m'a eu l'air vraiment pas mal. Enfin, c'était clair et net qu'elles étaient desséchées,
mais
les
miennes. C'est quand même assez fascinant que simplement avec une photo, en fait, la pierre arrive à retrouver la variété de végétal.
Mais surtout parmi des milliards de variétés.
C'est ça,
quoi.
C'est incroyable.
Ah ouais, vraiment.
Top. Et ça s'appelle Picture10.
Picture10.
Version gratuite. Payante.
Et une version payante avec un essai 7 jours gratuit comme souvent. Et ensuite, c'est 29,99 pour un an. Donc, ça reste quand même assez raisonnable. Si ça fonctionne bien, ça reste raisonnable.
Et puis, tu sauveras tes plantes.
Exactement.
On l'espère.
Je vous ferai un petit retour.
Bon, si tu t'intéressais un peu, parce que c'est la période en ce moment, aux allergiques.
Aux allergiques, oui. Alors, cette appli, elle est pour tous ceux qui se mouchent, qui ont les yeux gonflés, qui pleurent et qui détestent le printemps, du coup. Donc, petite dédicace aux allergiques au pollen.
Et oui.
Donc, cette appli Pollen Plus, on rentre dessus, on active la géolocalisation, ça nous capte et on se retrouve avec des infos très complètes sur ce qu'il y a dans l'air autour de nous. On peut même choisir ce à quoi on est allergique, c'est-à-dire bouleau, platane, frêne, chêne, je ne vous les fais pas tous, mais il y a une liste très très longue. Il y a un petit graphique aussi, une page où on peut voir le risque d'allergie en fonction de l'heure de la journée. Donc on peut même prévoir et anticiper.
Ah oui, comme une météo des pollens en quelque sorte.
Exactement.
Wow.
Donc c'est très pratique, c'est assez complet et surtout c'est gratuit. Et petit plus, on peut aussi voir la pollution atmosphérique autour de nous. Donc avant d'aller faire le petit jogging, si vous voulez vous remettre au sport au printemps.
Si vous avez le pollen et la pollution, vous vous dites, bon non, mais ça va, je vais regarder Tech Hebdo alors.
Exactement.
Je vais rester à la maison, c'est pas mal.
Donc voilà, et si vraiment Pollen Plus, ça ne suffit pas, on me l'a beaucoup recommandé sur les réseaux sociaux. On a l'appli Doctolib, que tout le monde connaît bien. Le mieux, c'est quand même de prendre rendez-vous avec un ORL. La désensibilisation, ça marche très bien pour les allergies.
Oui, voilà. C'est vrai. Même si ça fait un peu bobo quand même. Je ne sais pas si tu as...
J'ai pas testé, moi. J'ai quand même la chance d'aimer le printemps.
Quand on n'aime pas les aiguilles, c'est pas bon. Autre appli que tu as testée pour nous, qui s'appelle Paris Région Aventure.
C'est ça. Celle-là, elle est plus pour les familles ou pour les grands-enfants comme moi, parce que je me suis régalée de la tester. L'idée de cette appli, c'est de faire découvrir des quartiers ou des monuments célèbres de Paris et ses alentours grâce à la réalité augmentée, la reconnaissance d'images et la géolocalisation. Donc, il y a 44 aventures à faire, que ce soit de chez soi ou en extérieur. C'est environ 1h30 par aventure et c'est une sorte de jeu de piste en fait. Donc pour les aventures dehors, on a plusieurs thématiques, sport, street art, histoire, des choses un petit peu plus artistiques, nature, gastronomique.
Et donc tout le monde peut trouver son compte.
Exactement. Quoi. Et il y a plein de lieux, on peut aller découvrir le marché aux puces de Saint-Ouen, j'ai noté le centre Pompidou, Versailles qui me donne envie de tester. On peut découvrir l'ancienne ville royale de Rambouillet, se balader sur la Marne. Voilà, c'est très sympa, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, on bouge dans un quartier pour collecter des objets. C'est ça l'idée, grâce à la réalité augmentée. Et quand on a trouvé plusieurs objets, il y a des petites quiz, des petites anecdotes sur des événements historiques, sur le quartier, etc. Et on collecte des personnages. Donc, par exemple, à Versailles, on va avoir Louis XVI, Louis XIV, Marie-Antoinette, on peut avoir Napoléon ailleurs. Et on peut faire une petite collection des personnages en fonction des thèmes. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa et ludique pour les enfants. Mmh. Et de chez soi, c'est une nouveauté de l'appli. C'est des aventures sur le thème des Jeux Olympiques. Donc ça, je l'ai fait hier soir. Et on se promène dans un quartier, donc sur le téléphone, avec son petit personnage. On peut choisir entre Tom et Emma. Moi, j'ai pris Tom parce que c'est le nom de mon petit frère. Mmh. Et voilà, il se promène, il collecte des objets. Et à la fin, j'ai eu Nicolas Karabatic, le joueur de handball. Et ça nous explique un peu sa vie, l'histoire du handball. Et c'est très sympa. Les graphismes sont... très joli, moi ça m'a plu. C'est une très bonne idée pour occuper les enfants, surtout pour les longs week-ends du mois de mai qui arrivent.
Et les ponts là qui s'enchaînent.
Ouais, et c'est entièrement gratuit surtout. Donc c'est quand même le plus. Le seul petit bémol, c'est que pour le moment, c'est disponible uniquement pour Paris et sa région.
Voilà.
Voilà.
Bon, peut-être qu'on aura d'autres itérations et d'autres petits frères pour d'autres régions de France, ça serait pas mal. Merci beaucoup Eva pour cette petite sélection d'applis printanières. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien. Voilà, il manque plus que le soleil. Qui vient, qui repart. Enfin, en tout cas, on parle de Paris. Hein. Après, dans le sud, je sais que ça va bien. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, merci de nous avoir suivis pour ce Tech Hebdo. Comme chaque lundi, c'est un vrai plaisir que de passer cette demi-heure en votre compagnie. Très bon 1er mai. Voilà. Si vous en avez profité, profitez-en encore un petit peu. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne Tech & Co. Et puis aussi, je vous rappelle, tous les soirs hein, sur BFM Business, j'ai le plaisir de vous présenter Tech & Co. On parlait tout à l'heure de VR avec une émission spéciale VR tournée dans le métavers qui sera diffusée le 2 mai et qui est disponible si vous nous regardez après en replay. Hein, il n'y a pas de souci pour découvrir à quoi peut ressembler une émission de télé en VR. Ça peut être intéressant si ça vous intéresse. À très vite et merci encore une fois de nous suivre. À bientôt.